Voyageons avec Paul Morand, l'homme pressé, et nous parlons à présent d'une étape sur sa route qui n'a pas été de tout repos, celle-là. Ce fut celle de son élection à l'Académie française. Nous en parlons avec la romancière Pauline Dreyfus.
Nous attendons maintenant le résultat du vote concernant la succession au fauteuil de l'écrivain Claude Farrère, et nous saurons dans quelques instants si la candidature de M. Paul Morand, sujet d'assez violentes polémiques ces jours-ci, a été agréée. Et voilà, c'est chose faite. Et le résultat du second vote est identique. Monsieur Morand ne réussit pas à dépasser les 18 voix. Et le fauteuil de Claude Farrère reste vide. Mais voici maintenant les immortels qui sortent. Et le premier d'entre eux à qui je vais m'adresser est Jean Cocteau.
Eh bien, pour moi, c'était l'entrée de Jean Rostand à l'Académie était un très grand honneur. Et un très grand honneur pour l'Académie, l'entrée de Paul Morand. Je sais que je ne suis pas... Mais tous mes confrères ne sont pas de mon avis. Mais selon moi, c'est une journée très triste pour l'Académie française.
Voici maintenant Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Georges Lecomte. Monsieur le secrétaire perpétuel, quelques mots s'il vous plaît sur cette séance de cet après-midi.
Non, nous ne disons rien. Nous avons assez parlé en séance.
Le cardinal Grant, Monseigneur, quelques mots je vous en prie sur la séance.
Il a été parfait, de calme, de dignité. Comme on a été extrêmement aimable en salement au début, mais 40 années d'épiscopat, je ne dis que me réjouir de tout ce qui est à dire.
Autour de M. André-François Poncé.
Moi, je n'ai rien à dire. Enfin, nous sommes donné beaucoup de mal pour arriver à un résultat négatif. Ce n'est pas le seul endroit où de pareilles choses arrivent.
Archives de la RTF, 22 mai 1958. Bonjour Pauline Dreyfus.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un roman sur la cinquième candidature de Paul Morand à l'Académie française. Immortel enfin.
Oui, parce que l'Académie française, c'est tout au long de la vie de Paul Morand, Paul Morand qui n'aimait que les sprints, et c'est devenu au fur et à mesure des années un marathon. C'est-à-dire
Mais toujours à la vitesse du sprint.
Ça n'a pas été facile. Et il a fini par entrer en 1968, à l'âge de 80 ans, à l'Académie française, à la suite d'une histoire à rebondissements innombrables. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que il faut distinguer deux périodes. Avant-guerre, les candidatures de Paul Morand sont liées à un désir de reconnaissance littéraire. Il redoute que les jeunes le poussent vers la sortie, qu'on le traite comme un auteur mineur. C'est un auteur à succès, qui vend beaucoup, autour duquel Grasset fait des publicités à la limite de la vulgarité.
Alors, vous faites référence à le dernier... Alors, Morand de Paul Romand ou l'inverse.
Absolument. Bernard Grasset avait imaginé de faire une bande sur les romans de Paul Morand en disant le dernier Morand de Paul Romand, ce qui est assez joli. Mais ça allait plus loin que ça. C'est que quand Fermer la nuit est sorti, il y a une ligne de parfum qui est sortie en même temps. Quand Lewis et Irène est sorti, de mémoire en 1923, Grasset a placardé dans tout Paris des affiches disant les chapeaux d'Irène sont-ils de chez Lewis, qui était à l'époque le grand modiste des femmes du monde. Ça allait très loin, et Morand, qui avait tout de même de gros besoins d'argent, se laissait faire. Voilà, il l'a regretté des années après, il le dit dans le journal Inutile, c'est un laisser-aller qu'il regrette, mais sur le moment, il était ravi de pas se laisser complètement entretenir par Hélène Souzzo. Il avait quand même un train de vie à assurer, il aimait se faire ses tailleurs à Londres, il aimait les voitures, comme chacun sait.
Il y a un petit côté Sagan finalement. Hein.
Complètement, et les voitures ça coûte cher, il aimait sortir, il aimait les voyages, donc finalement, il avait besoin d'argent pour tout ça. Mais l'Académie française, c'était quand même cette idée que ses pairs allaient le reconnaître, qu'il passerait pas uniquement pour un sauteur. Et c'est assez intéressant parce que dès 1928, donc il a 40 ans, hein, il est né en 88, il y a un journal qui réalise un sondage auprès de ses lecteurs et qui demande qui parmi les jeunes écrivains on verrait le mieux entrer à l'Académie française. Et ben Morand arrive en tête des suffrages, donc dès 28.
Alors, ça semble acquis pour lui.
L'idée commence à le travailler. En 33, il y a une élection, il y a trois fauteuils à pourvoir. Mauroy serait également assez intéressé. Il tâte le terrain, mais il sent que c'est pas tout à fait acquis. Il y va pas. Et en 36, première vraie tentative, il se présente au fauteuil de Jules Cambon. Alors, il y croit pas tout à fait. Et il écrit d'ailleurs à ce moment-là une lettre assez drôle. C'est en début avril 36, une lettre à Roland de Margerie en lui disant « J'aurais pas le fauteuil ». Mais si je pouvais déjà emporter le dossier et les ressorts, ça m'irait assez bien. Donc, il n'y croit pas, mais enfin, il pointe le bout de son nez.
Il essaie d'avancer.
Exactement. 41, il a envie de se présenter au fauteuil de Marcel Prévost. Et là, pas de chance, la France est occupée. Et l'Académie française vient de décider que tant que la France était sous l'occupation allemande, il n'y aurait pas de nouvelle élection à l'Académie française. Donc, voilà. On arrive à l'après-guerre. Alors l'après-guerre, c'est tout à fait autre chose. La motivation, évidemment, est très différente. Ben, c'est l'idée de la réhabilitation politique. J'omets de dire une chose que j'ai trouvée très intéressante dans votre émission de lundi dernier que j'ai écoutée.
Avec Michel Collomb.
Avec Michel Collomb. Michel Collomb émet une hypothèse que je trouve finalement très juste. C'est de dire, si le discours de Morand s'est beaucoup droitisé dans les années 30, c'est en partie parce qu'il voulait plaire aux académiciens qui étaient très à droite. C'est pas la seule raison, évidemment, ça correspondait à des convictions politiques, mais je pense que c'est un des éléments qui a pu jouer.
Ou qui a pu libérer sa parole aussi, dans ces années-là. Donc il finit par y arriver quand même, et quand il y arrive, vous le dites très bien, il a 80 ans, c'est en 1968.
Alors attendez, on a oublié quelques épisodes, parce qu'il y a eu des tentatives avant 68. D'abord, en 55, il donne une interview assez plaisante à Roger Nimier, justement, dont on parlait à l'instant, dans le magazine Art, où il dit « Oui, l'Académie française, ça m'intéressait autrefois quand j'étais vieux. Maintenant que je suis jeune, j'ai dépassé tout ça. » C'est beaucoup d'humour. Et évidemment, je n'y pense même plus. En 57, sa femme Hélène insiste beaucoup, parce qu'il y a beaucoup Hélène Suzzo, enfin Hélène Morand derrière tout ça, et il se présente. Il y a derrière cette candidature, évidemment, d'abord l'envie de quitter Vevey et de revenir à Paris, de voir ses amis, de quitter la Suisse. L'idée de revenir dans cette famille littéraire et puis d'être un peu lavé de ses péchés, il faut bien dire. Hein. On n'a pas évoqué la guerre, mais chacun sait que il était à Vevey, en pénitence.
Voilà, à moitié de son plein gré seulement.
Voilà. Et en 57, il se présente au siège de Claude Farrère. C'est l'archive, justement, qu'on vient d'entendre. Et là, il se passe une chose, c'est que Mauriac, qui le déteste depuis très longtemps, lance une campagne contre lui. Une campagne qui prend deux formes. La première, c'est un article très fielleux dans le Figaro littéraire, où il le compare à Bonnard. Et il dit, Bonnard revient à Paris, et Morand, qui est du même bord, s'apprête à faire la même chose. Donc le qui est du même bord est quand même très offensant pour Morand. Et puis surtout, Mauriac fait signer une pétition à 10 académiciens, ce qui avec Mauriac en fait 11, pour dire que ces académiciens éprouveraient un grand trouble, une grande émotion.
Alors j'ai la citation, hein, si vous voulez,
oui.
On peut la donner. « Les membres sous-signés de l'Académie française désirent faire part à leurs confrères de l'émotion et du trouble que leur cause la candidature de M. Paul Morand au fauteuil de Claude Farrère. Ils ne contestent nullement les titres littéraires de ce candidat, mais à sa personne, à son rôle pendant la dernière guerre, demeurent liés des souvenirs, des griefs, de nature à réveiller des controverses, des conflits, dont il vaudrait mieux laisser au temps le soin d'achever l'apaisement. »
Absolument. Et le dernier coup d'épée qui va saboter cette candidature, c'est qu'on aurait glissé à Monseigneur Grant, qu'on entendait tout à l'heure, un exemplaire d'Ecate et ses chiens, soigneusement,
dont on parlait hier aussi,
où des passages scabreux avaient été soulignés en rouge, ce qui fait que Morand passait pour un pornographe abominable. Au total, ce qu'on voulait est arrivé, c'est-à-dire que l'élection lui échappe à une voix. Il a 18 voix, il en manque une. Et c'est Henri Troyat qui est élu au fauteuil de Claude Farrère.
Vous écoutez la Compagnie des auteurs. Nous sommes avec Pauline Dreyfus. 5 tentatives donc ont été nécessaires à Paul Morand pour franchir les portes de l'Académie française. Et c'est donc le 24 octobre 1968 que cela se produit. Vous en avez donc tiré un livre, Immortel enfin. Ce titre, qui est un titre concis comme un slogan de mai 68, ces slogans qui, justement, l'ont enchanté, vous le racontez, Pauline Dreyfus.
L'ont enchanté, bien entendu, par détestation du général de Gaulle. Et ses étudiants qui proclamaient dans la rue « 10 ans, ça suffit », trouvaient ça formidable. Parce que on arrive à la dernière candidature de Paul Morand avant l'élection, c'est en 1959. Donc en 57, il a raté le fauteuil à une voix. Il donne un cocktail somptueux au crayon et il dit à tous les journalistes qui sont là « J'ai tenté une expérience, c'est fini, j'ai compris, on veut pas de moi ». N'empêche que, 2 ans plus tard, il décide de se représenter. Et là, on est en avril 59 et le problème, c'est que le général de Gaulle est revenu au pouvoir entre-temps. Et que le général de Gaulle voue une rancune tenace à Paul Morand, qui ne l'a pas suivi en juin 40 à Londres. De Gaulle s'en était expliqué assez longuement auprès d'Alain Perfitte, en disant que Morand, qui était très introduit dans la bonne société anglaise, aurait pu apporter ses réseaux, son entre-gens, à ces gens de la résistance qui ne connaissaient quasiment personne. Morand a préféré rester du côté de Vichy et le général de Gaulle ne lui a pas pardonné. Si bien que quand de Gaulle présente sa candidature en avril 59, de Gaulle fait savoir au secrétaire général que si jamais il devait être élu, il ne recevrait pas le candidat et que de toute façon, il juge d'un très mauvais œil cette candidature. Et l'affaire prend une telle ampleur que Paul Morand retire sa candidature. L'élection n'a pas lieu. Donc, c'est un long feuilleton. Et puis, 9 ans plus tard, au printemps 68, juste après les événements de mai 68, le général de Gaulle fait savoir à Morand, par l'entremise de Maurice Genevoix, qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française, que puisque Morand s'est tenu tranquille, il ne voit finalement pas d'inconvénient à ce que Morand se présente à l'Académie française, à une condition cependant, c'est qu'il ne se présente pas au fauteuil du maréchal Juin, qui était le vieux camarade de promotion de De Gaulle à Saint-Cyr. Donc ça, on n'y touche pas. Et le seul fauteuil libre à ce moment-là, c'est le fauteuil de maître Maurice Garçon, qui est un grand avocat des années 30-40, et auquel Morand va se présenter.
Voilà, et ce sera donc à ce fauteuil qu'il sera finalement élu. On peut peut-être dire un mot du rôle d'Hélène Souzzo, sa femme. En 1968, elle est déjà une vieille femme. Hein. Vous avez commencé déjà à dire qu'elle l'avait beaucoup poussé. Sans doute sans elle, il ne se serait pas présenté à l'Académie. Et pourtant, les rapports entre monsieur et madame Morand sont des rapports assez étonnants. Comment vous la voyez, vous, cette femme, Hélène Souzzo, et quel a été pour vous son rôle, dont on dit qu'il a été majeur?
Son rôle est essentiel. C'est une femme très certainement antipathique et en même temps assez fascinante. D'abord, elle est nettement plus âgée que lui. Il épouse un peu sa mère, hein, Paul Morand. Elle a 13 ans de plus que lui. Il l'a trompée énormément, et en même temps, il revient toujours à elle.
Alors, elle était très au courant qu'elle était trompée.
Elle était au courant, et
Elle s'en vantait,
oui, absolument. Elle disait, un homme qui ne trompe pas sa femme n'est pas un homme. Alors, il y a un mari qui part avec ça comme viatique dans la vie, tout est possible.
Et pourtant, il avait quand même, à force de tromper sa femme, parfois des remords. Même si elle lui donnait l'autorisation de le tromper.
Je pense que le remords a eu lieu une seule fois, en 1939. C'est déjà pas mal.
Bel effort.
Et à tel point qu'en 1941, quand paraît L'homme pressé, il le dédie à Hélène. Et c'est la seule fois où il va le faire. Et la dédicace est très jolie. Il lui dit, dédie-t-on un livre à qui on a dédié sa vie. Et là, il a des choses à se faire pardonner. Je crois que ce que disait Marc Dambre est très juste tout à l'heure. Le journal Inutile, c'est une extraordinaire déclaration d'amour à Hélène, notamment dans les dernières années, quand elle s'en va par morceaux, c'est une très vieille personne. Et lui est extraordinaire avec elle, s'occupe d'elle avec un soin incroyable. Elle devient aveugle. Or, c'était une femme très cultivée qui lisait au moins 1, voire 2 livres par jour. Il embauche une jeune lectrice du conservatoire, qui est Nathalie Baye, pour lui faire la lecture. comme il veut pas qu'elle ait honte dans son fauteuil roulant, il fait venir des gens à déjeuner, comme ça elle a pas besoin de sortir. Il est assez extraordinaire avec elle, il lui raconte tout, elle est sourde en plus. Alors, à table, elle entend pas très bien ce qu'on dit, il lui répète la conversation, il est d'un dévouement inouï. Donc elle a été à la fois la femme la plus trompée de Paris, et je pense paradoxalement une des femmes les plus aimées de Paris. Ça c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre à notre époque, mais qui est extrêmement intéressant. Alors, du point de vue de l'Académie française, elle est essentielle, parce que c'est sa revanche à elle. Je pense que si elle n'avait pas tant insisté, lui aurait peut-être renoncé, à force d'échecs et de défaites.
Peut-être d'autres thèmes, puisqu'il nous reste quelques minutes de votre roman. Vous parlez notamment de l'appartement de l'avenue Charles Floquet, que vous décrivez beaucoup et bien.
Oui, qui est ce qu'on appelait un appartement cathédrale. Ça avait été construit par le père d'Hélène. C'était sa dot. Sur des terrains vagues, à l'époque, le quartier était mal famé. C'était devant la tour Eiffel. Et il y avait un salon de 20 mètres de long et de 8 mètres de haut.
Vous parlez également des visiteurs. On trouve des noms qu'on ne s'attendrait pas à trouver. Par exemple, Patrick Modiano.
Oui, parce que Paul Morand était très attentif aux jeunes écrivains. Et en 1968, c'est lui qui a beaucoup fait pour que Modiano, pour son premier roman qui s'appelait La Place de l'Étoile, ait le prix Roger Nimier. Donc vous voyez, on revient à Nimier, qui a été créé un an après la mort de Nimier, qui était mécéné par Florence Gould. Morand était...
Qui existe toujours.
Voilà, absolument. Et c'est Modiano qui l'a eu, qui était un tout jeune homme de 22 ans. Ensuite, Morand l'a invité à déjeuner chez lui pour faire mieux connaissance. On imagine très bien, Modiano disait pas grand-chose, il a pas changé.
Morand parlait beaucoup, non pas tellement.
Morand ne parlait pas grand-chose, mais ils avaient des silences qui s'accordaient. Et je sais pas si c'est vraiment une amitié, mais ils se sont connus, et ils se sont bien connus à la fin de leur vie.
Un autre nom qui fréquentait aussi ce même salon, si l'on peut dire, c'est François-Marie Bagnier. Lui, on l'attend davantage dans ce milieu-là.
François-Marie Bagnier a toujours aimé les personnes âgées, ça n'a jamais changé.
Riche
de préférence, absolument. Je crois qu'il faisait beaucoup rire les Morand. Il avait un don d'imitateur. Je pense qu'il avait une conversation très amusante. Et il a passé pas mal de temps là. Je pense qu'il n'a pas extorqué le moindre manuscrit, le moindre livre ancien. Mais vous savez, pour des personnes âgées, je pense que ce genre de gens, avec une conversation assez brillante, qui sortait beaucoup, était distrayant. Et au fond, c'est ça qu'il cherchait, c'était à être distrait.
Et vous, ce sera ma dernière question, qu'avez-vous cherché en écrivant ce livre, Pauline Dreyfus? Pourquoi vous êtes intéressée à ce moment-là de la vie de Paul Morand et de manière plus globale à Paul Morand lui-même?
Ce moment-là, parce que je le trouvais très... Il y a une nouvelle de Borges où on fait passer toute une existence dans le chat d'une aiguille. Et ben voilà, pour moi, l'Académie française, pour Morand, c'était ça. C'est-à-dire qu'on pouvait raconter beaucoup d'épisodes disparates de la vie de Morand à travers ces diverses tentatives à l'Académie française. Ça, c'est la première chose.
Mais qu'est-ce qui vous fascinait chez Morand?
Ah, c'est un écrivain que j'admire énormément et je prends tout. Alors moi je dis je prends tout, je trouve que c'est difficile de faire le tri, même dans le journal inutile, où comme disait à juste titre Marc Dampre, il y a des scories, mais elles font partie du personnage. Je suis une grande admiratrice du styliste, et ce que je trouve très intéressant avec Morand, c'est qu'avec les années, son rôle pendant la guerre pour les jeunes lecteurs s'efface et on ne lit plus que l'écrivain, on ne juge plus que l'écrivain, et ça je trouve ça très bien au fond.
Le mot de la fin, Marc Dampre, très rapidement.
Ce qui est intéressant, c'est que Patrick Modiano trouver qu'on aurait dû publier le journal inutile simplement en extrait, parce que c'est un livre qui n'est pas lisible dans son ensemble.
Et vous êtes contre ça?
Oui, pour la bonne raison que les scories, c'est aussi...
Je
prends tout également. Et,
oui. Et il faut tout prendre.
Ça ne suppose pas l'approbation, forcément.
En même temps. Merci. Marc Dambre, merci à vous aussi, Pauline Dreyfus. Je rappelle que votre roman Immortel enfin a été récemment réédité au livre de poche. Demain.